Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La mort de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, il était âgé de 76 ans. Elle demandait le droit au travail et à l'éducation. Un groupe de femmes qui manifestaient hier à Kaboul ont été aspergées de gaz poivré par les talibans. 2022 va être une année catastrophique en termes d'expulsion locative en France. C'est ce qu'indique le porte-parole du droit au logement, Jean-Baptiste Hérault, qui sera l'un de nos invités. C'est en ce moment au musée d'histoire de Nantes, l'exposition L'Abîme, Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial, 1707-1830. Nous écouterons Christelle Galdé, la commissaire de l'exposition. La Coupe d'Afrique des Nations, après sa défaite face au Mali, la Tunisie s'est imposée hier face à la Mauritanie. Victoire 4-0, défaite de l'Algérie 0-1 face à la Guinée équatoriale. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta est mort hier. Il a présidé le Mali entre 2013 et 2020. L'ancien chef d'État était âgé de 76 ans. Élu président en septembre 2013, il avait été renversé par des militaires en août 2020. Plongé dans une grave crise sécuritaire et politique depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes en 2012, le Mali fait aussi face depuis une semaine à de lourdes sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 2022 va être une année catastrophique en termes d'expulsion locative en France. Le cri d'alarme du porte-parole du droit au logement, Jean-Baptiste Hérault, craint jusqu'à 30 000 expulsions forcées. Entretien avec Jean-Baptiste Hérault.
On compte 300 000 personnes sans abri. Selon la Fondation Abbé Pierre, qui fait des statistiques régulières sur le sujet, auxquelles s'ajoutent 100 000 personnes qui vivent dans des habitats précaires, des cabanes, des bidonvilles. Déjà, avec ce chiffre-là, il est énorme, parce qu'on n'en a jamais compté autant dans notre pays, auquel s'ajoutent 650 000 personnes qui sont hébergées à droite à gauche et des tiers de manière précaire. Donc on est à plus d'un million de personnes sans logis, c'est-à-dire qui n'ont pas de logement à eux et qui sont en situation de précarité, auquel s'ajoutent plusieurs millions de personnes mal logées, sans logis. On a 2,2 millions de demandeurs de logements sociaux en cours actuellement, alors qu'on attribue que 400 000 logements sociaux dans l'année. Tous les signes, on a une augmentation du nombre d'expulsions locatives, un peu moins du fait des mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire, mais on sait que 2022 va être une année catastrophique en termes d'expulsions locatives. On va sans doute arriver à 20 ou 30 000, entre 20 et 30 000 expulsions forcé, hein, c'est-à-dire avec intervention de la police.
Il y aura plus d'expulsions parce que ces personnes ont été protégées pendant la crise sanitaire et ces personnes ne le seront plus, c'est ce que vous nous dites?
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 000 expulsions en 2020, aux alentours de 10 000 sans doute sur l'année 2021. Donc il va y avoir l'effet rattrapage, si vous voulez. Bon, et puis tous ceux qui ont pu rester dans leur logement et qui sont menacés là, à partir du 1er avril, sans compter le fait que la hausse des loyers, la baisse des APL aggrave la situation des impayés de loyers, donc augmente le nombre de chemins d'expulsion. On n'oublie pas non plus toutes les pratiques spéculatives avec des congés qui sont délivrés aux locataires, qui sont frauduleux. On a aussi des expulsions illégales, les propriétaires qui se plaignent maintenant de ne pas pouvoir expulser leurs locataires assez rapidement, etc., etc. On est dans la logique de la consommation. Toc, on va acheter un truc et hop, on fout son locataire dehors. On achète un produit immédiatement et on met son locataire à la rue. On veut tout de suite dehors, on ne va pas se préoccuper du drame humain que ça représente. Et malheureusement, il y a de plus en plus de bailleurs qui violent impunément la loi, y compris d'ailleurs les droits des locataires.
Oui, parce que c'est une violation de la loi. Dans les textes, les locataires sont protégés.
Enfin, relativement, de moins en moins, il faut bien comprendre. Mais normalement, une expulsion ne peut être exécutée qu'à l'issue d'un jugement et la force publique qui est autorisée par le préfet. Donc après, les locataires ont tendance à partir en cours de route, en cours de procédure, si je comprends, parce que c'est une angoisse, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, l'expulsion, la procédure d'expulsion locative. Mais en tout cas, il y a des propriétaires qui n'hésitent pas à changer d'assureur en l'absence du locataire quand il revient à la rue, avec ses affaires à l'intérieur, des gros bras, etc. On a une multiplication des situations comme ça. Et c'est totalement illégal. C'est puni d'ailleurs par la loi. Mais on a aussi l'encadrement des loyers. On l'a vu, il n'est pas respecté par au moins un tiers des locations mises en ligne sur Paris, près de la moitié sur la Seine-Saint-Denis. Bon, Il y a aussi le, on sait aussi que de manière quasiment constante, parce que malheureusement les locataires n'ont pas les moyens de vérifier, le gel du loyer au changement du locataire n'est pas respecté non plus. Or, il existe depuis 2014 et les loyers ont continué à augmenter, donc ils n'auraient pas dû augmenter. Et ils continuent à augmenter, ce qui veut dire que cette disposition n'est pas respectée. Et d'autres encore...
Oui, vous nous dites que le propriétaire n'a pas le droit d'augmenter le loyer lors du départ d'un locataire et de l'arrivée d'un nouveau locataire. Le loyer doit rester le même ou sensiblement le même?
Oui, ah bah oui, sauf s'il fait des travaux lourds, etc., mais il faut le justifier. Hein. Bah, on n'a pas le droit d'augmenter le loyer quand tu changes de locataire. Malheureusement, toutes ces dispositions-là, comme les normes de décence aussi, ou bien la surface, la question du respect de la surface, dans les secteurs où les loyers sont encadrés, la surface est importante, puisque les loyers sont encadrés en fonction du nombre de mètres carrés. Nous, on constate que beaucoup de situations, la surface est beaucoup plus petite que celle annoncée sur le contrat, ce qui fait que les locataires payent des mètres carrés qui n'existent pas. Vous voyez, c'est tout ça qui est en place, parce qu'il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de sanction.
Entendez-vous interpeller l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle sur les questions liées au logement et comment entendez-vous les interpeller?
D'une part, il faut que cette question du logement elle arrive dans la campagne, alors que ce n'est pas le cas. Bien sûr, on interpellera les candidats hormis l'extrême droite, hein, évidemment les candidats à l'extrême droite, mais les autres, on ira leur poser la question. Les causes de la crise que nous avons aujourd'hui, c'est évidemment une augmentation constante du nombre de logements vacants. C'est une des causes de la crise du logement. Mais ce n'est pas la seule. 3,1 millions de logements vacants en France, on n'en a jamais compté autant, 1 million de plus qu'il y a une quinzaine d'années. Et donc, cette vacance produit une pénurie, si vous voulez. Un manque renforce la pénurie de logements et participe au renchérissement des prix de l'immobilier, des prix du foncier, des loyers, et en résumé, à la spéculation immobilière.
Le porte-parole du droit au logement, Jean-Baptiste Hérault. Le bureau en exercice du Conseil français du culte musulman se réunira demain avec les responsables des fédérations membres du CFCM. Objectif, préparer l'Assemblée générale extraordinaire. Elle aura lieu le 19 février avec un point à l'ordre du jour, la discussion et le vote d'une résolution, la dissolution du CFCM pour permettre aux acteurs du culte musulman au niveau local de mettre en place une nouvelle forme de représentation démocratique du culte musulman. Voilà ce qu'indique le bureau du CFCM, pour qui il est temps que les acteurs du terrain qui gèrent au quotidien le culte musulman puissent participer au devenir de leur représentation et mettre fin à la situation de blocage que vit le CFCM depuis des mois, voire des années, selon un communiqué du Conseil français du culte musulman. Elle demandait le droit au travail et à l'éducation. Un groupe de femmes qui manifestaient hier à Kaboul ont été aspergées de gaz poivré par les talibans. Une vingtaine de femmes s'étaient rassemblées devant l'université de la capitale afghane. Les talibans interviennent fréquemment pour disperser par la force les rassemblements réclamant des droits pour les femmes. Les autorités ont aussi empêché les employés du secteur public de reprendre le travail. De nombreuses écoles secondaires n'ont toujours pas ouvert leurs portes aux filles et les universités publiques sont fermées. L'exposition « L'abîme, Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial 1707-1830 » est actuellement présentée au Musée d'histoire de Nantes. Nantes, une ville qui a décidé de faire connaître son passé esclavagiste. Christelle Galdet, la commissaire de l'exposition.
Le titre de l'exposition est une référence en fait à un texte d'Édouard Glissant, à un poème dans lequel il parle du gouffre atlantique. Et il évoque à ce moment-là, eh bien, cette traversée de l'océan Atlantique qui est un élément déterminant dans la déportation des captifs et qui fait basculer les hommes, les femmes et les enfants qui montent à bord des navires de traite, ben, dans un statut qui est celui qui va les amener en fait à la position de personnes mises en esclavage dans les colonies des Amériques. Donc ce gouffre défini par Édouard Glissant, c'est aussi une évocation du gouffre mémoriel, c'est-à-dire de cet oubli, de cette histoire qui tout à coup, dans cette traversée, va aussi s'effacer. Et il nous semblait important de faire référence à ce texte et en même temps d'évoquer par ce terme qui est très fort, hein, l'abîme, eh bien ce qui s'est abîmé dans notre humanité au moment de ce commerce. 1707 est lié en fait à un événement nantais. En 1707, un navire nantais finalement va se lancer dans une campagne de traite et il va connaître une fortune de mer, c'est-à-dire que les choses vont mal se passer. Ça ne va pas donner le lancement hein, de la traite nantaise, mais ça marque quand même un début. Un début pour une ville qui va devenir le premier port négrier de France, et cela jusqu'en 1830-1831, qui est la date en fait de la dernière loi qui abolit la traite. Alors c'est encore une loi différente de celle de l'abolition de l'esclavage, mais c'est vraiment cette loi de 1830-31 qui va mettre un terme à l'activité.
Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques objets emblématiques présentés dans cette exposition ?
Oui, c'est difficile toujours pour nous de choisir des objets, mais je pense que évidemment il y a deux documents qui sont extrêmement importants dans l'exposition. Ce sont les deux aquarelles qui représentent la Marie Séraphique. La Marie Séraphique est un navire négrier nantais qui a appartenu à Jacques Barthélémy Gruel. C'est un navire qui va faire 4 campagnes de traite, sous ce nom-là en tout cas. Et ce navire, bien qu'il ne va pas connaître une véritable réussite, même si l'armateur va en être content, voilà, c'est un navire exceptionnel. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que ces campagnes de traite vont faire l'objet de représentations. Ça, c'est unique. Et ce sont ces aquarelles que le musée conserve en partie, hein, car d'autres sont dans des collections privées, mais conserve en partie au musée. Et ce sont les seuls documents datés du XVIIIe siècle, réalisés par des acteurs de la traite, qui montrent le commerce tel qu'il se déroulait. Ce sont des documents fondamentaux hein, qui ont révolutionné l'histoire de la traite atlantique, puisqu'aujourd'hui, ce sont les objets qu'on nous demande le plus dans le monde entier pour être reproduits dans les ouvrages des historiens, mais aussi les ouvrages de vulgarisation.
Il y a notamment des tableaux qui montrent des esclaves aux côtés de leurs maîtres.
Oui, il y a aussi, en effet, plusieurs représentations de personnes mises en esclavage à côté de leurs propriétaires, alors pas toujours, mais parfois. Et ces tableaux, en fait, sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous montrent ce que nous avons oublié, c'est-à-dire la présence sur le sol de France de personnes esclavagisées au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, et cela jusqu'en 1848, évidemment, jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Ces tableaux, en fait, ne sont pas uniques, hein. On en connaît tous finalement, on en a tous quelque part dans notre représentation mentale, mais ce qui nous semblait très intéressant, c'était ici de les faire apparaître pour ce qu'ils étaient vraiment, à la fois des tableaux manifestes d'une réussite, mais aussi les portraits de personnes esclavagisées ayant vécu sur le sol de France.
Vous montrez aussi les objets qui étaient achetés par les commerçants de Nantes en échange des esclaves qu'ils vendaient.
Oui, alors en fait, oui, c'est vrai que ce commerce était un commerce légal, parfaitement assumé, parfaitement accepté, et les personnes qui s'y enrichissaient le plus, hein, donc les armateurs, les négociants, ne cachaient absolument pas que ce commerce était à l'origine de leur réussite, et donc faisaient réaliser des objets qui témoignaient de leur réussite dans ce domaine. Donc des petites tabatières qui représentent une femme mise en esclavage, un porteur de cigares, c'est-à-dire une petite sculpture avec un plateau et c'est un homme mis en esclavage qui porte le plateau. Tous ces objets entraient en fait dans les bureaux des armateurs, des négociants, de tous ceux qui finançaient aussi les campagnes de traite quand ils avaient les moyens de réaliser ce type d'objet d'art décoratif. Donc oui, nous montrons aussi que c'est une réussite qui à ce moment-là s'exhibe.
Cela fait 30 ans que Nantes fait connaître son passé esclavagiste sous l'impulsion de Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes. Vous montrez aussi les traces laissées par ce passé dans la ville de Nantes ?
Alors les traces de ce passé dans la ville de Nantes, oui, depuis de très nombreuses années, elles sont mises en avant hein, par des parcours dans la ville, qui sont des parcours organisés par l'Office de tourisme, mais aussi par le musée, et puis bien sûr par cet objet extrêmement important, objet de mémoire, qu'est le mémorial de l'abolition de l'esclavage, qui fête ses 10 ans, là, en 2022, et qui témoigne de l'acceptation de cette histoire, et aussi du fait qu'il ne faut pas l'oublier, qui témoigne aussi de l'importance de continuer les luttes contre l'esclavage, car l'esclavage existe toujours dans le monde et qu'il ne faut pas non plus l'oublier. Donc l'exposition montre évidemment aussi tous ces éléments-là, qui sont des éléments à la fois passés et très présents, car le principe de cette exposition, c'est de nous interroger aussi sur aujourd'hui.
Christelle Galdé, commissaire de l'exposition, l'abîme Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial, 1707-1830, c'est au musée d'histoire de Nantes. Christelle Galdé répondait à Loïc Barrière. La Coupe d'Afrique des Nations, après sa défaite face au Mali, la Tunisie s'est imposée hier face à la Mauritanie, victoire 4-0. La Côte d'Ivoire a été tenue en échec par la Sierra Leone, 2-2, et devra attendre la dernière journée pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique. L'Algérie s'est inclinée 0-1 face à la Guinée équatoriale, une déconvenue pour le champion d'Afrique en titre, déjà tenu en échec 0-0 par la Sierra Leone mardi dernier. Vous êtes bien sur Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera François Asselineau, le président de l'UPR, candidat à l'élection présidentielle, une émission préparée, présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, bientôt 12h16.